Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Istanbul frappé par un attentat, c'est arrivé cet après-midi dans l'artère commerçante et très fréquentée d'Istiklal, au cœur de la mégalopole turque. Il y a plusieurs victimes, des morts et des blessés. Un rassemblement cet après-midi contre le racisme et les idées d'extrême droite, rassemblement à l'appel de plusieurs organisations, dont le MRAP. Maître Kaltoum Gashi, coprésidente du MRAP, sera l'une de nos invitées. Vainqueur des élections législatives israéliennes du 1er novembre, Benjamin Netanyahou a été officiellement désigné ce dimanche pour former un nouveau gouvernement. 13 novembre 2015, 13 novembre 2022, il y a 7 ans, la France vivait les pires attentats de son histoire, des attaques terroristes à Paris et Saint-Denis qui ont fait 131 morts et 350 blessés. Anouar Gbibesh présidait alors le Conseil français du culte musulman. Il reviendra sur l'immense choc provoqué par cette tragédie. L'invité de Pluriel ce week-end était Pierre-Yves Bournazel, coprésident du groupe Indépendants et Progressistes, conseiller de Paris, secrétaire général délégué d'Horizon. Il salue la décision de la France d'accueillir le Ocean Viking, vous l'entendrez. Au moins 140 candidats à l'exil ont été secourus dans la Manche. Trois opérations de secours et d'assistance ont permis à ces personnes d'être mises à l'abri. Une personne est morte après l'effondrement de deux immeubles hier à Lille. Le corps sans vie d'un médecin a été retrouvé ce matin. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient à 19h est Guy Dugas, professeur des universités et directeur littéraire des éditions El Kalima à Alger. Extrait de cette émission dans votre édition. Le président turc Recep Tayyip Erdogan dénonce un vil attentat, cela après qu'une très forte explosion a retenti cet après-midi en plein cœur d'Istanbul. Il y a plusieurs victimes, des morts et des blessés. L'attentat a eu lieu dans l'artère commerçante et très fréquentée d'Istiklal, au cœur de la mégalopole turque. Le drame s'est produit au moment où la foule dans cette artère était particulièrement dense. Ambulances, camions de pompiers et policiers ont quadrillé le secteur. La rue Istiklal avait déjà été touchée par le passé lors d'une campagne d'attentats en 2015 et 2016 qui avait notamment visé Istanbul. Cette série d'attaques qui avait fait près de 500 morts et plus de 2000 blessés avait été revendiquée par le groupe État islamique. Vainqueur des élections législatives du 1er novembre, Benjamin Netanyahou a été officiellement désigné ce dimanche pour former un nouveau gouvernement. Le bloc comprenant le Likoud, ses alliés ultra-orthodoxes et d'extrême droite, est arrivé devant le bloc dirigé par Yair Lapid. Ce nouveau gouvernement pourrait être le plus à droite de l'histoire d'Israël, ce qui suscite des craintes à l'échelle locale et internationale. SOS Racisme et plusieurs autres organisations comme le MRAP et la Ligue des Droits de l'Homme ont appelé à manifester contre le racisme et les idées d'extrême droite ce dimanche. Une marche de République à Bastille, elle a eu lieu cet après-midi. Entretien avec Maître Kaltoum Gashi, coprésidente du MRAP.
Ah, il est très important de se mobiliser contre la poussée de l'extrême droite et plus encore de se mobiliser contre sa banalisation et contre la prolifération des idées d'extrême droite qui s'imposent de plus en plus. Ce qui nous a émus, nous autres militants antiracistes, ce sont ces propos, et nous n'avons pas été les seuls, hein, ce sont ces propos proférés à l'Assemblée nationale, retour en Afrique. Ça a été l'élément déclencheur de cette initiative, et il est important aujourd'hui pour nous de dénoncer voilà ce qui se passe en France et le fait qu'un député puisse être ainsi stigmatisé à raison de sa couleur de peau, parce que au singulier ou au pluriel, cette formule de toute façon est extrêmement doit être combattue, et c'est surtout l'extrême droite qui doit l'être avec les idées nauséabondes qu'il véhicule.
Vous ressentez aujourd'hui cette banalisation de ce type de propos?
Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que y a un certain nombre de personnes qui ont considéré que finalement, au pluriel, c'était pas trop grave, alors que qu'il s'agisse du singulier, s'en prendre directement à ce parlementaire, ou au pluriel, c'est-à-dire proférer ce type de propos face à une situation dramatique vécue par des migrants, eh bien le simple fait d'avoir considéré que finalement au pluriel c'était pas si grave, c'est une banalisation des idées d'extrême droite et de la haine que ces idées-là recèlent, hein, parce que Marine Le Pen s'est attachée à dédiaboliser ce parti, à faire en sorte voilà qu'il puisse peut-être mieux passer aux yeux des gens. Et quand on allume sa télévision, force est quand même de constater qu'il y a des représentants de l'extrême droite qui sont extrêmement nombreux par rapport à il y a quelques années où c'était un parti qui était banni pour ces mêmes idées. Alors peut-être qu'elles sont un petit peu plus feutrées aujourd'hui, mais l'extrême droite reste fidèle à elle-même. Et pour cette raison-là, il faut se mobiliser et continuer à la combattre.
Quel regard portez-vous sur la poussée de l'extrême droite dans plusieurs pays européens, et notamment en Italie, après sa victoire aux dernières élections législatives ?
C'est une situation qui inquiète, évidemment, et on ne peut pas s'empêcher de penser au sort de la France si notre pays était dirigé par ce parti qui reste un parti raciste et xénophobe. Donc il faut tirer les enseignements de ce qui se passe ailleurs, tirer les enseignements de ce qui se passe chez nous, en France. Il faut continuer à faire en sorte que l'on puisse vivre ensemble dans des conditions de fraternité et pas de haine de l'autre.
Tirer les enseignements, dites-vous, comment cela peut se traduire ?
Je crois que l'urgence, c'est de rappeler ce qu'est l'extrême droite et de le rappeler haut et fort partout, qu'il s'agisse de le faire dans la rue, mais aussi de réinvestir les écoles, voilà, effectuer un travail sur ce parti et la manière dont il s'est construit et dont il continue à se construire et à être plus puissant qu'il ne l'était il y a quelques années encore. Donc ce sont différents types d'actions qu'il faut privilégier, et dans tous les domaines, dans le domaine éducatif, dans le domaine de la justice, il faut également que dans la législation il y ait aussi une prise en considération du racisme, et que la peine d'inéligibilité soit plus systématiquement requise contre les auteurs de propos racistes. Parfaitement inadmissible aujourd'hui que des représentants de la République puissent tenir ce type de propos.
Maître Kaltoum Gachi, coprésidente du MRAP. Le bilan de l'accident de bus survenu hier dans le nord de l'Égypte s'est alourdi à 20 morts. Le minibus s'est renversé dans un canal du delta du Nil. Il transportait 35 passagers au moment de l'accident. C'était il y a 7 ans, le 13 novembre 2015. Une série d'attaques terroristes faisait 131 morts et 350 blessés. Des attentats à Paris et à Saint-Denis. La première attaque est survenue aux abords du Stade de France à Saint-Denis. Une autre partie du commando a sévi dans plusieurs rues des 10e et 11e arrondissements, où trois terroristes ont mitraillé des terrasses de cafés et de restaurants. La salle de spectacle du Bataclan a ensuite été visée. Le Bataclan, où 90 personnes ont été tuées. Le président du Rassemblement des musulmans de France présidait à l'époque le Conseil français du culte musulman. Anouar Bibesh revient sur l'immense choc provoqué par ces attentats.
7 ans après cette tragédie, le souvenir de cet effroyable événement est toujours dans les esprits, et à cette occasion, bien sûr, nos pensées les plus émues vont aux victimes, à leurs familles qui sont meurtries et marquées à jamais, et puis à toute la nation et à la société française qui est restée effectivement traumatisée par ces événements tragiques. Puisque, comme vous l'avez rappelé, nous avons assisté à une tuerie de masse sans précédent. Et en plus, elle a été commise au nom d'une religion qui est totalement étrangère à ces actes de barbarie et ces actes de terrorisme.
Vous présidiez le Conseil français du culte musulman lorsque ces attaques terroristes ont eu lieu. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les actions engagées suite à ces attaques ?
Déjà, la secousse a été très forte puisque, comme je l'ai rappelé, toute la nation française a été traumatisée par ces actes et on ne pensait pas du tout vivre des moments pareils en France dans ces années-là. Le Conseil français du culte musulman, bien sûr, à l'époque, s'est mobilisé tout de suite. Nous avons bien sûr condamné avec la plus grande vigueur ces actes qui ne peuvent se réclamer d'aucune religion et d'aucune valeur humaine. Mais au-delà de la condamnation, nous avons mené des actions concrètes, puisque nous avons diffusé le vendredi suivant un prêche qui a été lu dans l'ensemble des mosquées de France et qui condamnait clairement tout acte de terrorisme, qui condamnait ceux qui ont revendiqué ces actes barbares, Daesh en l'occurrence. Et nous avons rappelé les textes scripturaires et les textes théologiques, que ce soit du Coran ou de la Sunna, de la tradition du prophète, qui condamnent clairement et spécifiquement ces actes barbares. Et donc ça a été une première de lire un prêche du vendredi commun à l'ensemble des mosquées de France. Et une semaine après, nous avons organisé un rassemblement de l'ensemble des musulmans de France. C'était un rassemblement citoyen à l'Institut du Monde Arabe. Il y avait plus de 400 responsables de mosquées, de responsables de fédérations, de responsables associatifs, d'acteurs politiques, économiques et sociaux qui étaient là, des représentants de l'ensemble des religions, pour réaffirmer à travers un manifeste citoyen des musulmans de France notre attachement aux valeurs de la République et notre rejet clair et net de tout acte de violence et de barbarie. Et le ministre de l'Intérieur à l'époque, qui était M. Bernard Cazeneuve, était là et il a assisté à la lecture de ce manifeste citoyen des musulmans de France. Et en prenant la parole à la clôture de cette manifestation, il a considéré que c'était une déclaration d'amour des musulmans de France à leur pays, la France. Donc ce sont des événements qui nous ont marqués à vie et nous voulons dire plus jamais ça. Et ceci passe par un vrai travail de fond d'éducation, de pédagogie auprès de la jeunesse pour les immuniser contre ces risques de dérive.
Et c'est un travail qui se poursuit aujourd'hui.
Oui, c'est un travail de tous les jours qui est fait par nos imams dans les mosquées de France. Il faut saluer le travail qu'ils font pour prévenir ce type d'acte. Et puis c'est la responsabilité également des fédérations musulmanes, des institutions musulmanes, d'accompagner les musulmans de France dans ce travail d'éducation et de pédagogie.
Anouar Gbibesh, président du Rassemblement des musulmans de France, ancien président du Conseil français du culte musulman. 7 Français sont actuellement détenus en Iran, une annonce du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. La ministre Catherine Colonna rappelle la mobilisation du Quai d'Orsay pour obtenir leur libération. L'Iran, où au moins 326 manifestants ont été tués dans la répression du mouvement de contestation qui secoue le pays depuis septembre, depuis la mort de Mahsa Amini après son arrestation par la police des mœurs, un bilan fourni par l'ONG Iran Human Rights. Au moins 140 candidats à l'exil ont été secourus dans la Manche. 3 opérations de secours et d'assistance ont permis à ces personnes d'être mises à l'abri. Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord met en garde toute personne qui envisage de traverser la Manche sur les risques encourus, notamment à une période où la température de l'eau commence à baisser. L'Ocean Viking a quitté le port militaire de Toulon hier après le débarquement de ses 230 passagers vendredi. Les personnes arrivées en France se trouvent dans une zone d'attente internationale spécialement créée sur la presqu'île de Gian. Avant de repartir au large de la Libye, le navire humanitaire restera pendant plusieurs semaines dans un autre port français pour une escale technique. 175 migrants quitteront la France pour être relocalisés dans 11 autres pays européens. L'invité de Pluriel ce week-end était Pierre-Yves Bournazel, coprésident du groupe Indépendants et Progressistes, conseiller de Paris, secrétaire général délégué d'Horizon. Il salue la décision de la France d'accueillir l'Ocean Viking. Pierre-Yves Bournazel.
Je suis favorable à cette décision d'intérêt général du gouvernement de la République. D'abord parce qu'il y a un premier principe qui me semble essentiel, c'est le principe d'humanité. La position du gouvernement italien, de Mme Meloni, de M. Salvini, est incompréhensible. Il y a des enfants en bas âge. Sur ce bateau, il y a des hommes, des femmes qui sont en situation de difficulté depuis 20 jours en mer, avec le froid, avec l'humidité. Notre premier devoir, c'est le devoir d'humanité. Ça a été d'ailleurs ma position constante depuis des années. Et puis ensuite, la question du droit. Ces personnes, qu'elles aient vocation ou pas à rester sur le territoire, il faut d'abord les protéger dans leur dignité, bien les accueillir. Celles et ceux qui devront être intégrés devront passer par des processus dont on pourrait longuement débattre, de l'apprentissage de la langue, à la question de l'emploi, à la question du logement. Et puis à celles et ceux qui n'auront pas vocation à rester sur le territoire parce que le droit ne leur permettra pas, et ceux-là devront bien sûr quitter le territoire. Mais là, le devoir d'humanité s'impose d'abord. C'est un principe de réalité. dans quel monde veut-on vivre? Dans quelle société veut-on vivre? La position du gouvernement Meloni-Salvini est une position égoïste, dangereuse pour les migrants qui sont sur un bateau au péril de leur vie, dans des conditions effroyables, mais aussi ce gouvernement Meloni-Salvini participe à l'affaiblissement de l'Union européenne. Si nous sommes ensemble, c'est pour construire des politiques publiques communes. C'est pas pour que chacun, dans le nationalisme le plus étriqué, soit le plus égoïste possible. Donc je soutiens la position du gouvernement, d'abord l'humanité, face à cette situation et l'application ensuite du droit.
Pierre-Yves Bournazel, conseiller de Paris, coprésident du groupe Indépendance et Progressiste, il était l'invité de Pluriel, émission présentée par Loïc Barrière. Une personne est morte après l'effondrement de deux immeubles hier à Lille. Le corps sans vie d'un médecin a été retrouvé ce matin. Le parquet de Lille a indiqué avoir ouvert une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui et diligenté une expertise judiciaire. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce dimanche à 19h est Guy Dugas, professeur des universités et directeur littéraire des éditions El Kalima à Alger. Il a notamment créé la collection Les Petits Inédits Maghrébins. Il s'agit d'une collection de poches de textes inédits découverts dans des fonds d'archives en France ou au Maghreb. Il a ainsi publié un inédit du poète et romancier algérien Rabah Belamri. Comment cette collection est-elle née, Guy Dugas?
Nous sommes partis du constat, du double constat finalement, qu'il existe quantité de fonds d'archives inexploitées, souvent mal conservées d'ailleurs, ici ou là, sur une rive ou sur l'autre de la Méditerranée. Ça, c'était le premier constat. Et le deuxième constat, qui est plus général et en même temps plus particulier au Maghreb, aux relations entre le Maghreb et la France, c'est que la littérature a aussi un rôle à jouer dans ce travail de mémoire dont on parle tant actuellement. Et que si les archives historiques peuvent poser quantité de problèmes, les archives littéraires sont au contraire un trait d'union entre nos deux pays. L'exemple type, c'est évidemment l'œuvre de Jean Sénac, mais aussi celle de Rabah Belamri, mais aussi celle de Kateb Yassine, qui sont des écrivains à cheval sur une rive et l'autre de la Méditerranée.
Guy Dugas, professeur des universités, directeur littéraire des éditions El Kalima à Alger, il est l'invité à 19h de la bibliothèque de Radio Orient, émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition, un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.